Cube Radio.
Les favoris entrent dans la danse. Place aux Chiefs et aux Eagles. Les premiers seront les derniers. Après avoir été la risée de la NFL, la NFC East est de retour au sommet. Les Bills, ils sont bons, mais est-ce qu'ils ont ce qu'il faut pour se rendre jusqu'au bout? Sortie décevante pour Tom Brady et Justin Herbert. Quelle sera la suite pour ceux pour qui le parcours est terminé? Tout cela et bien plus dans ce nouvel épisode de La Zone Payante. Bonjour à tous, mon nom est Jean-Nicolas Gagné, heureux de vous retrouver cette semaine. Je suis en compagnie de l'expert en football au Journal de Montréal et de Québec, fraîchement revenu de Buffalo, Stéphane Cadorette. Salut Steph!
Salut Jean-Nic, hey, on n'a pas pu en parler la semaine passée parce que je n'avais pas à ce moment-là. J'étais à Buffalo, j'étais en attente d'accréditation, on aurait aimé ça le dire au monde, c'était pas une cachette. Mais coudonc, je suis parti à la dernière minute, puis ben du fun là-bas.
Bon, alors, nous, on va passer un petit peu à travers ce qui s'en vient cette semaine, mais on peut faire un petit retour, si tu veux bien, Steph, sur la semaine passée, que t'étais à Buffalo, t'as vu le match entre les Bills et les Dolphins. Moi, en fait, j'étais si heureux là, de savoir que j'allais pas avoir de match, que les Bills allaient torcher les Dolphins, que j'allais pouvoir comme faire d'autres choses, pas m'en faire. Mais les maudits Bills, ils ont même pas livré. Ils ont donné un match, puis ils m'ont donné de l'espoir.
C'est ça qui est le pire. Hey, tu m'as volé les mots, j'allais dire. Ils ont été chiens, ils t'ont donné de l'espoir. C'est ça qui
est
arrivé.
Terrible. C'est terrible.
Et, écoute, j'avais l'impression...
J'ai encore plus qu'avant.
J'avais l'impression que Josh Allen, il jouait une game, tu sais, dans sa cour arrière. Tu sais, quand tu lances des bombes et des bombes et des bombes, quand t'es jeune, tu joues avec tes amis, puis une passe de 6 verges, ça t'intéresse pas, là. C'était ça, c'était bizarre, sur des 3 et 1, des passes de 48 verges dans les airs, puis c'était très mal géré, j'ai trouvé. La gestion de l'horloge des Dolphins a été mauvaise aussi. Tout ça a donné un match un peu bizarre qui a duré à peu près 4 heures. Ça a été plus le fun que prévu côté pointage, ça je te le concède. Là, t'sais, c'est, les deux équipes ont été dedans jusqu'à la fin. Mais honnêtement, drôle de match, drôle de match. Puis les Bills ont convaincu personne, ça c'est sûr. T'sais, une victoire, c'est une victoire. Puis Josh Allen le disait après le match, on a survécu. T'sais, c'est ça l'important en série. Là. Sauf que tu joues contre une équipe, tout le monde parle du fait que c'était les Dolphins et leur troisième corps arrière, oui. On le sait que Skyler Thompson, ça leur donnait pas grand-chance, mais il y avait pas mal d'autres blessures là, chez les Dolphins. La ligne à l'attaque était complètement déboîtée. La tertiaire, il y avait des blessures aussi. Le jeu au sol était amputé de Raheem Mostert. Tu sais, à un moment donné, là, c'était pas une équipe de grande qualité qui était sur le terrain. Ils se sont battus, donc chapeau. Ça, tu peux pas leur enlever, mais les Bills auraient dû faire beaucoup mieux. Donc, c'est ça. Performance, honnêtement, là, tu sais, quand je suis arrivé dans le vestiaire, on sentait que les gars, c'était pas nécessairement le party, là. C'est, on a gagné.
Ouais.
Tannez-nous pas, on a gagné, on a fait ce qu'il fallait. Mais c'était pas le sentiment que t'as d'une équipe qui a fait son travail, qui a fait ce qu'il fallait, qui a fait ce qu'on attendait d'elle. C'était très, très sobre, je te dirais, là, dans le vestiaire après le match.
OK. Puis, qu'est-ce que t'as pensé de la performance de tes Vikings? Parce que là, moi, je suis pas le seul à souffrir, là, cette semaine. Ouais. Il y a toi aussi, là, avec tes mauves, là. Qu'est-ce qu'on fait?
Je sais pas.
On change tout de sport.
Pas. Jean-Nic, un, on changera pas de sport. Deux, on changera pas d'équipe. Mais on a le droit, sur le coup, d'être découragé un peu. Tu sais, c'est toujours la même histoire. Des promesses, puis ça finit.
Je regardais un peu le polo, là, puis je trouve que c'est beau, un cheval. Puis c'était lancé. Puis peut-être que je pourrais commencer à m'intéresser au polo.
Ben, moi, je pourrais m'intéresser au water polo. Mais écoute, il y a d'autres sports, c'est vrai. Tu fais ce que tu veux, Jean-Nic, t'es libre. Moi, jamais okay. Je vais te retenir. Mais honnêtement, il y a juste une chose, c'est que moi, je ferai pas de podcast sur le polo. Ça, c'est sûr. Mais tu fais ce que tu veux, là.
Mais je vais me renseigner, je te reviens la semaine prochaine, mais peut-être que je vais conserver mes responsabilités ici aussi.
Mais c'est dur, c'est dur. Honnêtement, c'est dur, là, ouais, écoute, je regarde, moi, les Vikings, une saison de 13 victoires. Tu sais, 13 victoires, là, c'était arrivé en 2017, puis c'était arrivé en 98, la fameuse année de 15-1 des Vikings. Puis à chaque fois, ça finit tout croche. C'est décourageant, puis je veux pas manquer de respect aux fans des Giants. C'est une bonne équipe, mais sans plus. C'est pas une grande équipe de football en ce moment, les Giants. C'est une équipe qui a ce qu'il faut pour causer des surprises, tu sais, qui peut faire un petit bout. Mais là, t'affrontes les Vikings. Il y avait tellement de doutes depuis le début de l'année. C'est comme si ça valide le scepticisme là, de tout le monde, toute l'espèce d'incrédulité ambiante qu'il y avait autour de cette équipe-là a été validée finalement. Puis moi, mes craintes qui se sont avérées, c'était depuis le début de la saison, cette équipe-là a pas de défense. A pas de défense. Les Giants ont punté une fois dans ce match-là. Ils sont pas capables d'arrêter une attaque de milieu de peloton. Là. Donc, tu sais, ils seraient arrivés à un moment donné contre des grosses, grosses attaques, puis ils se seraient fait manger. C'était l'évidence. Cette valeur va avoir du travail à faire de ce côté-là. C'est facile de gueuler contre Kirk Cousins puis son 4e et 8. C'était pas très beau, là, j'en conviens. Mais c'est pas là que le match s'est joué. Tu sais, le match s'est joué bien avant avec une défensive pourrie qui a été une passoire toute l'année, il faut se le dire.
Bon, la semaine passée, là, je t'ai prédit un Black Monday. Je t'ai dit que Staley allait perdre sa job lundi après une défaite pathétique des Chargers. La défaite pathétique est arrivée, mais il est encore là. Peux-tu m'expliquer qu'est-ce que les Chargers voient dans Brandon Staley que je vois pas?
Je vais t'amener quelque chose que peut-être qu'ils voient que nous, on voit pas. Il coûte pas cher. C'est pas une équipe qui a beaucoup d'argent, les Chargers, je te le jure. Là. C'est pas l'équipe que les liquidités leur pissent par les oreilles. Puis, tu mettrais dehors un coach alors que justement, là, t'es le second violon à Los Angeles, puis loin en arrière des Rams, qui ont déjà de la misère à pogner dans leur marché. Je pense qu'il y a ça dans l'équation, veut pas. Ils le diront jamais, là. Il y a jamais un dirigeant des Chargers qui va dire, écoutez, là, on paye Brandon Staley, pis on n'a pas le goût de le payer dans le vide, comme Cliff Kingsbury qui est parti en Thaïlande, un billet aller sans retour, là. Ils le diront pas, mais il y a ça dans l'équation, je pense. L'autre chose, c'est que les joueurs ont milité en faveur de Brandon Staley, là, tu sais,
ouais, après ça, le match. Ça, là, mais
moi, il y a quelque chose là-dedans. Est-ce qu'ils sont trop confortables, les joueurs,
justement? C'est ça, là. Moi, un coach, là, que les joueurs veulent le garder, là. Oui, OK, ça veut dire que c'est un bon gars, puis qu'ils aiment travailler avec, puis ils sont prêts à y donner un peu de leur temps, puis de leur sang sur le terrain pour gagner, mais des fois, c'est ça aussi, c'est parce que c'est rendu un ami, puis on le veut le garder dans l'entourage, là.
Je pense qu'il faut bien s'entendre avec son coach. On n'est plus en 1920 là, que c'est le grand patron qui fait peur à tout le monde à grand coup de pied dans le derrière. Là. On n'est plus là. Mais c'est pas le cégep non plus. Là. Tu t'en vas pas au salon étudiant t'amuser avec tes chums. Je veux dire, c'est il y a quelque chose de sérieux là-dedans. Faut qu'il y ait une relation de respect, oui. Mais il faut aussi, à quelque part, que le coach ce soit le chef du navire. Puis c'est ça qu'on se demande à Los Angeles avec les Chargers.
OK. Là, tout a été dit sur le match en fin de semaine. Là, une avance de 27-0, puis perdre ce match-là, finalement, là, c'est terrible. Là,
manque de focus, puis manque d'ajustement aussi aux Jaguars en deuxième demi, qui ont joué à peu près tout le temps sans caucus. On dirait que les Chargers se sont pas ajustés. Puis ce qui est bizarre, on a flushé le coordonnateur offensif Joe Brady. Ça, je comprends parce qu'il méritait pas nécessairement de conserver son poste. Mais qui s'occupe de la défensive avec les Chargers? C'est Brandon Staley qui emmène large à ce niveau-là. Là. Donc, il y a quelque part un écope, mais pas l'autre. Il y a des questions à se poser.
Est-ce que Brady revient l'année prochaine? Qu'est-ce que tu vois en ce moment sur les... Moi, je vois pas de signe de retraite, là, mais qui va vouloir de lui, là?
Il a été très émotif à la fin de sa conférence de presse. Je sais pas si t'as vu. Il a même remercié les journalistes. C'est rare qu'on voit ça. Il a remercié les Buccaneers. Il a dit que c'était une excellente organisation.
Ouais, c'est clair qu'il ne revient pas chez les Buccaneers. En tout cas, moi, sa conférence de presse, c'est ça le message.
Je pense qu'on peut déduire ça. Puis j'ai l'impression que Brady, écoute, là, son mariage a sauté. En partie, on n'est pas dans le secret des dieux, mais on peut deviner que c'est en partie parce qu'il est incapable de décrocher du football. J'ai de la misère à croire qu'il a fait ça pour une saison. de 8 et 9 avec les Bucks. Tu sais, je pense qu'il y a le goût de continuer. Je pense que la flamme est encore là. Puis, écoute, il y en a qui seront pas d'accord. Peut-être même toi, puis tu peux me donner tes arguments. Mais je pense pas que Brady est fini. Je pense qu'il est pas à son meilleur. Il a déjà été mieux, c'est clair. Mais il est encore capable de jouer aussi bien que pas mal de corps arrière dans cette ligue-là. Moi, je continue de le voir avec les Raiders. C'est une équipe qui a besoin d'un grand coup de marketing, d'un grand coup de souffle nouveau, de culture gagnante aussi. C'est ce qui manque là avec les Raiders. Tu sais, Brady qui serait là pour un an ou deux, ça peut amener cet aspect crédibilité-là. Moi, j'aime ça, puis je trouve qu'avec les Raiders, il y aurait des armes instantanément. Les Davante Adams, Hunter Renfrow, Josh Jacobs, Darren Waller, le lit rapproché. Il y a une ligne à l'attaque qui est pas piquée des verres. Tu sais, la défense, c'est très ordinaire, ça on le sait. Mais les Raiders, écoute, ce serait un bon mariage de part et d'autre. Je continue de penser que c'est ça qui va arriver.
Écoute, moi, il a lancé combien de fois, Brady? 65 fois?
66 fois. C'est hallucinant.
Il va falloir un jeu au sol. Là. Josh Jacobs, pas sûr qu'il va revenir avec les Raiders, mais quand même, là, il va y falloir un jeu au sol l'année prochaine.
Est-ce que tu penses qu'il est fini, toi, Brady?
Mais je pense plus qu'il peut lancer 65 passes par
t'sais. Ça, c'est trop. Ça, on en convient.
Faut qu'il lance 30. Faut qu'il y ait des jeux. T'sais, il peut pas avoir 30 passes de préparer puis d'improviser 30 autres. Là. Puis là, c'est ça qu'on a eu d'avoir l'impression la semaine passée. Puis d'après moi, c'est pour ça.
Mais Davante Adams est capable de créer beaucoup plus de séparation que Mike Evans à ce stade-ci de sa carrière. Mike Evans, c'est un excellent receveur. Mais en ce moment, il crée plus de séparation.
Bon,
c'est dur là, pour Brady. Là.
Rapidement, les Ravens et les Seahawks, un mot là-dessus. Ils se sont bien battus, mais il y avait plus fort qu'eux en avant.
Ben, les Ravens, c'est surtout le post-mortem qu'il y a à faire. C'est qu'est-ce qui se passe avec Lamar Jackson? Parce qu'en ce moment, on a un gars qui avait au départ un pronostic de retour au jeu dans 3 à 5 semaines. Là, il a raté quoi? 6 matchs ou 7? Il y a des doutes là, dans l'organisation à gauche à droite sur le fait que est-ce qu'il aurait pu revenir au jeu? Là, il aurait peut-être pas été à 100%, mais est-ce qu'il aurait pu jouer en série?
Et Robert Griffin, là, de Third,
il a un bon point. Mais
il était malade, il était blessé. Il était arrêté, là. C'est ça.
Il y a ce que je trouve bizarre au niveau de l'organisation, c'est que personne s'est garoché pour dire écoutez, là, arrêtez ces rumeurs-là. Lamar Jackson n'est pas prêt à revenir au jeu. C'est un soldat. On est derrière lui. On le supporte à 100%.
Mais
John Harbaugh a été très évasif. Sens,
c'est rare, tu sais, qu'il confirme un ou l'autre, là, tu sais.
Ouais, mais j'ai trouvé que Lamar Jackson a parlé de sa blessure par ses réseaux sociaux. L'équipe a été plus évasive. John Harbaugh a été très évasif. Tu sais, c'est pas comme s'il y avait une grande relation d'amour entre les deux en ce moment, on dirait.
Les Seahawks, là, ça devait se finir un jour. Là. Gino n'a pas eu une mauvaise game, mais clairement, the guy is pretty, pretty, pretty good.
Ben écoute, moi, les Seahawks, j'ai rien à dire de négatif sur ce qui s'est passé. Ils ont perdu le match, mais écoute, ils ont donné un match aux Niners pendant quoi, une demi? C'était un bonus d'être en série. C'était inattendu, c'était inespéré. C'est une équipe dont la reconstruction est beaucoup plus vite que prévu. Ils ont deux excellents bloqueurs qui ont repêché au dernier repêchage. Donc, il y a vraiment de quoi qui se construit là-bas. Un très bon porteur de ballon recru. Deux demi de coin de qualité aussi qui ont pris au dernier repêchage. Il y a un excellent jeune noyau. Puis ça va faire ça peut juste aller en s'améliorant. Maintenant, est-ce que Geno Smith peut leur redonner une autre saison comme ça l'an prochain? Il va encore avoir des sceptiques. Là, il est agent libre, donc c'est pas sûr à 100% qu'il revient, mais il a mentionné son intention de revenir, son souhait de revenir. Je pense que les Seahawks peuvent juste continuer d'aller vers le haut.
OK, maintenant, on se tourne vers l'avant. Là, on va en parler au cours de l'émission parce que c'est la grosse fin de semaine. Les 4 matchs importants, les Chiefs et les Eagles là, qui arrivent. Là, les deux équipes favorites, hein, je pense, on peut dire ça, même si les Bills ont certains preneurs au livre qui les mettent gagnants du Super Bowl. On va parler tantôt, mais rapidement, là, est-ce que tu trouves que les deux arrivent dans des bonnes conditions et affrontent des bonnes équipes? On va en parler dans nos prédictions, mais j'aimerais ça t'entendre tout de suite.
Oui, ils arrivent dans des bonnes conditions. Premièrement, c'est l'évidence, là, sont reposés. sont à la maison les deux. Fait que tu sais, t'as pas de meilleure situation que ça. Tu sais, la semaine passée, on en avait parlé, Jean-Nic, là, puis je veux revenir sur une stat parce que récemment, ça a moins été le cas. Mais depuis que le système actuel du seeding, là, du positionnement des équipes par conférence est en place depuis 1976, les équipes qui ont été classées numéro 1, on l'avait dit la semaine passée, 25 Super Bowls sur 48. Donc, il y a là un net avantage. Par contre, dans les dernières années, ça a été moins le cas. Depuis les séries de 2018, les équipes semées numéro 1 dans les séries ont montré une fiche combinée de 7 victoires, 8 défaites, aucune victoire au Super Bowl là, dans les 4 dernières années. Il y a quand même matière à réflexion. Ça veut dire que tu es bien positionné, tu as un avantage clair que tu as été cherché en gagnant des matchs durant la saison, mais que dans les dernières années, ça a été moins payant que dans l'ensemble de l'histoire des séries. Là. Fait que faut pas prendre pour acquis que ces équipes-là arrivent numéro un puis qu'ils vont finir numéro un. Tu sais, il y a de l'opposition en ce moment. Tu regardes Casey dans la conférence américaine. Tu as parlé de Buffalo, mais moi, je suis pas prêt à enterrer Cincinnati là comme ça. Du côté de la nationale, San Francisco, vraiment, qui est une menace sérieuse. Puis la façon que les Cowboys ont joué en fin de semaine...
Yeah, c'était convaincant, ça, c'est
écoute, sûr. Je comprends que c'était Tampa, là.
Mais écoute, on va en parler tantôt, Steph. Je te laisse pas t'étendre, là, parce qu'on va en avoir en long et en large à expliquer pour les prédictions. Laissons-nous pour l'instant. On va faire une pause, puis après la pause, ben là, ça va être les questions du public, parce que ça aussi, vous avez été nombreux, là, c'est le moment de l'année où il y a de l'intérêt pour le football. Et on va répondre à vos questions, bougez pas.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Question du public.
Et vous êtes sur la zone payante, un podcast de Cube Radio. Mon nom est Jean-Nicolas Gagné, en compagnie de Stéphane Cadorette, et c'est le moment des questions du public. OK. Martin nous pose la question. Concernant les entrevues du Defensive Coordinator des 49ers, est-il normal de faire 4 entrevues pour des postes de coach pendant qu'il est en préparation pour la deuxième ronde éliminatoire? Et ça, c'est vrai qu'on en parle souvent. Là, j'ai mon take là-dessus. Mais vas-y, est-ce que c'est normal qu'un gars fasse 4 entrevues pour un head coach quand ton équipe est en série?
C'est un excellent point qu'amène Martin Lambert. Puis tu sais, ça fait peur, honnêtement. Ça fait réfléchir sur ce match-là parce que moi, je me demande comment c'est humainement possible. Préparer une entrevue, là, on le sait, là, que ce soit pour n'importe quel travail, c'est exigeant déjà. Là, tu te vois en préparer 4. Pour des clubs de la NFL, là, les entrevues, ça dure pas une heure. Là. Ça peut durer 7-8 heures des fois. Ça se finit en souper, ça continue dans la soirée. C'est vraiment long, des entrevues pour un poste de head coach. Là, on parle d'un gars de Miko Ryans qui est en pleine ascension en ce moment. Là, il n'y a pas si longtemps que ça, il joue encore dans la NFL comme linebacker des Texans. Là, avec ce peu d'expérience-là, il doit se préparer pour des entrevues de coach, préparer son plan de match contre les Cowboys. Il n'y aura pas assez d'heures à un moment donné d'une journée. Je dis pas que ça va couler les Niners, mais ça peut certainement affecter la préparation défensive, c'est sûr et certain.
Et surtout, qu'est-ce que le monde pense dans le vestiaire, tu sais? Ouais, hey, où le coach? Ah, oh, il est parti à Tennessee faire une entrevue. Ou il est parti...
En même temps, tout le monde l'aime, tout le monde le respecte, ils veulent son bien, les joueurs, ça c'est sûr.
Ah, oh, et puis tout le monde se dit, ah, c'est une business, puis tout ça, mais à un moment donné, là... Ça n'a pas de sens, là.
Ce que je pense qui devrait arriver dans ces cas-là, c'est que la NFL devrait interdire les entrevues avant la fin de la saison. Là, il y en a qui vont dire, ouais, mais ça mettrait trop serré pour le combine, les agents libres. Tu sais, la saison se finit à la mi-février, le Super Bowl.
Pas juste ça, là. Moi, je pense aussi que les candidats de coach, ils accepteraient pas ça, là, parce que lui, là, il
veut
pas
être puni
parce que son équipe est en playoff. Ben oui, c'est ça.
Ouais, mais si t'interdis... Toute entrevue, toutes les équipes doivent attendre justement que la saison soit terminée. Écoute, je sais, mais en ce moment, c'est pas logique. C'est carrément pas logique. Moi, je vois pas d'autre façon, honnêtement, d'empêcher ça, parce que les coachs, c'est normal, je leur en veux pas. Ils vont toujours penser à leur avenir. Écoute, c'est leur carrière là, qui est en jeu là-dedans. Fait que tu peux pas dire « Ah non, moi j'ai un match à préparer, je me barre toutes les opportunités. » Tu sais, il reste que ils rêvent tous d'être coach en chef, là, ces gars-là. Fait que moi, je les blâme pas de faire ça. Mais à un moment donné, ce serait peut-être à la Ligue de mettre plus de balises puis aux équipes de les respecter.
Hugo, il nous dit, à mon avis, comme partisan des Bills, dans le match Bills-Dolphins, les deux équipes ont mal géré le cadran. Généralement, dans les 10 dernières minutes d'un match, tu tentes d'écouler le temps, surtout si tu mènes, et non de liquider les trois tentatives rapidement avec des bombes de plusieurs verges ratées. Pourquoi ont-ils joué de la sorte? Je lève mon chapeau à tes Dolphins, John Calloway. D'ailleurs, là, je veux faire une parenthèse, là, je remercie nos auditeurs, là, parce que je me suis senti là, comme un joueur sur le terrain qui avait une grosse blessure et qui avait eu plusieurs messages d'appui là, et de compréhension et d'empathie. Merci à tous les auditeurs là, qui ont pensé à moi pendant le match des Dolphins, comme quoi j'avais souffert et j'ai souffert.
C'est émouvant. Là. Votre appui. C'est émouvant, les auditeurs sont gentils, mais moi je vais te le dire, Jean-Nic, le diagnostic dans ton cas, c'est une fracture de l'ego. Je sais pas comment ça se guérit, mais c'est pas mal ça qui t'arrive.
Ouais, mais là, écoute, là, moi, je suis donné. Là, je sais pas ce qui va arriver avec les Dolphins. Je pense qu'ils vont être mauvais pendant toute ma vie. Puis j'ai fait une croix sur un Super Bowl. Je vais continuer de les appuyer par dépit. Puis plus je vais essayer de me trouver un nouveau sport là, à suivre. Là, je prends les suggestions. Donc, revenons à la question d'Hugo.
Ouais, ben ça a été très mal géré.
On a parlé
géré,
un là. Peu tantôt de la gestion du temps, mais c'est ça. Ils n'ont pas été fameux non plus. Là.
On s'étendra pas parce qu'effectivement, on en a parlé, mais juste pour appuyer ce que je disais tantôt, quand je disais Josh Allen lançait des bombes et des bombes et des bombes, là, sa moyenne de verge par tentative de passe, là, de verge dans les airs que le ballon a franchi à chaque tentative de passe, c'est 15,6. Tu vois bien que c'est pas normal. T'sais, surtout comme quand notre auditeur Hugo Belland nous dit « Surtout quand tu mènes, il y a quelque chose de bizarre là-dedans. C'est comme si on s'essaye, sans tenir compte de la situation sur le terrain, de la situation du match, du cadran. Ça a été pas très, très bien. Puis dans le cas des Dolphins, ben c'est la communication qui semblait difficile entre McDaniel et Skylar Thompson. Là, il y en a beaucoup qui disaient « C'est pas facile gérer ça avec un corps arrière recru, mais je peux pas croire, là, les gars s'entraînent toute la semaine ensemble. Thompson, ça fait quand même un bout là qu'il y a de l'expérience sur le terrain, même si c'est sa première saison. Je comprends que c'est pas facile, puis je comprends qu'il a été catapulté dans un rôle qui devait pas être le sien, mais c'est pas comme s'il était débarqué en série puis qu'il avait pas joué de l'année. Là. J'ai trouvé ça étrange. Tous les jeux rentraient au dernier moment. Ça semblait long à caler les jeux du côté de McDaniel. » Ce qui fait qu'à chaque fois les Dolphins brisaient leur caucus, ça se garochait sa ligne de mêlée. Go, 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 go. Tu sais, c'était le stress secondes, total. Ouais. Ça a été très, très mal géré. Ça a amené à gaspiller des temps d'arrêt qui auraient été très précieux en fin de match quand les Bills essayaient simplement d'écouler le temps dans la dernière séquence ou deux. Donc ça a été vraiment pas payant pour eux.
Notre ami Rusovski, qui nous pose une question cette semaine, il nous rappelle qu'il a vécu sa première expérience cette année en allant voir les Texans contre les Cowboys. Il portait son chandail de Damon Pierce. Il s'est fait écœurer un peu par les fans des Cowboys, il s'y attendait. Mais sa question est plutôt, s'il allait dans un autre stade là avec le chandail de l'équipe adverse, c'est lequel stade qui est le plus intimidant pour quand on s'affiche avec l'équipe adverse?
Hey, moi, j'hésiterais pas une seconde pour répondre à ça. C'est les Eagles. À Philadelphie, là, ça a beu brasser pas à peu près. C'est pas surfait, là, la réputation de la crowd très rough des Eagles. Écoute, là, ça a fait ses preuves depuis des années. Moi, je l'avais même vécu au repêchage à Philadelphie. J'ai pas couvert un match là des Eagles, mais au repêchage à Philadelphie, je me rappelle que ça s'enguirlandait joyeusement dans les rues, là, tu sais, des gens qui portaient le chandail des Cowboys, là.
Ouais, les Cowboys, c'est ça. Moi, j'étais allé deux fois avec mon chandail des Dolphins. Je me suis fait écœurer modérément. Mais si t'arrives avec un chandail des Cowboys ou des Giants, là, t'es sûr que là, tu passes pas une bonne journée. Ouais.
Mais sinon, je te dirais que j'ai vécu, moi, une expérience. Là, je sais pas comment accès à Las Vegas. Je suis pas allé voir les Raiders à Vegas, mais j'avais assisté à un match des Raiders dans le Black Hole à Oakland. j'avais fait un reportage cette année-là, pas traditionnel sur le match comme tel. Moi, j'avais voulu aller voir les partisans des Raiders parce qu'on disait c'est les plus tordus de la NFL et tout. Dans le Black Hole, où tout le monde est debout, même si le club perd 30-0, là, si tu t'en vas là avec un chandail des Chiefs, probablement que ça peut brasser pas
oui,
mal.
Oui, oui, c'est ça. Et quand tu arrives dans des intra-divisions, là, ça brasse plus que si tu arrives, mettons, avec un chandail du Tennessee quand tu t'en vas jouer, quand tu t'en vas voir les Chargers, mettons.
Oui, oui, c'est ça. Là. C'est exactement.
OK. Jérôme Jacques nous pose la question. À part le duo de la zone payante, qui est le meilleur duo, quel est le meilleur duo analyste-commentateur présentement pour la NFL? Et il nous envoie ses sympathies, particulièrement à toi, Stéphane, pour tes Vikings. Tu vois comment que nos auditeurs sont attentionnés.
Oui, j'aime ça.
Il a vécu le même deuil la semaine passée avec les Packers. Merci, Jérôme. Alors, c'est quoi ton duo favori de commentateur?
Merci pour les compliments d'abord. Puis, deuxièmement, moi, mon duo, en ce moment, il y a une couple d'années, je t'aurais dit Romo puis Nance. Là, ça serait, moi, Burkhardt et Greg Olsen à Fox. J'adore le ton, tu sais, c'est posé, tu sais, c'est vivant mais posé, tu sais, pas de gueulage pour n'importe quoi. Olsen, c'est en ce moment le meilleur analyste à la télé, là, moi je trouve. C'est vraiment spécial parce que quand Tom Brady va arriver là, c'est probablement lui qui va prendre sa chaise, mais Olsen fait vraiment un bon travail pour revenir sur les jeux, nous amener des éléments qu'on n'avait peut-être pas remarqués. C'est ça le rôle d'un analyste. Plus que de faire des wow puis des cris puis des avez-vous vu ça puis donc c'est ça, moi en ce moment c'est mon duo Romo puis Nance, mais je continue d'avoir beaucoup de plaisir à regarder leur match à CBS.
La seule Romo, chose il s'essaye c'est un peu trop là.
Ben c'est ça, j'ai trouvé qu'il était un peu moins dans l'analyse, puis je demande pas là un grand intellectuel du football, c'est pas ça, je vais avoir du fun en regardant le match. Mais Romo s'est basé beaucoup là au début sur son analyse puis des prédictions de jeu qui allaient arriver puis tout, puis il frappait souvent dans le mille. Dernièrement, c'est plus du oh wow, did you see that? La voix aiguë perchée un peu, ça peut devenir agressant à la longue, mais bon, écoute, ça reste un excellent duo aussi.
Jérôme Tremblay nous pose la question. Question hypothétique. Si Purdy remporte ou se rend au Super Bowl, les 49ers lui donnent-ils les clés de la ville ou on remet le ballon dans les mains de Trey Lance?
Oh, ben là, hey, comme dirait Kiss, I wanna rock and roll all night and Purdy every day. Hey, si il gagne le Super Bowl, là, tu peux pas.
Là,
non, c'est fini le débat, là. Tu sais, c'est pas
même
lui qui fait ça.
Même s'il se rend au Super Bowl, écoute, s'il se rend au Super Bowl avec des performances, ben, même déjà là, c'est les performances qu'il donne, là, le coolness dans la poche.
Ouais.
C'est dur en maudit là, de se dire, ouais, là.
Les gens exagèrent un peu parce que c'est comme si c'est lui qui gagnait un match. Là. Faut pas non plus ambitionner. Il est dans une très, très belle position. Mais il reste que dans cette position-là, il fait mieux jusqu'à maintenant que faisait Jimmy G. Donc, il y a quand même quelque chose, ce jeune-là. Il y a du moxie, il est bon dans les grands moments. Il a pas l'air d'être ébranlé par rien. Il a pas l'air d'être affecté par la pression. J'ai hâte de voir contre les Cowboys là, qui appliquent justement beaucoup de pression sur le corps arrière, mais pour en rester à la question, on en parlera tantôt du reste, pour en rester à la question de Jérôme, écoute, il sera en Super Bowl, gang ou peur, je pense que tu reviens avec Purdy l'an prochain.
Luc nous pose la question, s'il vous plaît, parce que peut-être un partisan des Chargers, s'il vous plaît, expliquez-nous comment les Chargers ont perdu avec 27 points d'avance.
Ben, on a abordé en début d'émission, mais écoute, ce que je te parlais, là, la défense s'est jamais ajustée à l'attaque sans caucus des Jaguars. Ça a fait mal. Des pénalités un peu stupides par moment. Même si Joey Bosa avait raison, là, sur le fond. Là. Le bloqueur des Jaguars était vraiment hors-jeu. Il a eu raison de se fâcher, mais faut que tu gardes tes émotions là, intactes parce que ça a coûté cher. Tu sais, ce jeu-là, quand tu regardes, là, ça a coûté une pénalité qui a permis aux Jaguars de s'avancer à la porte des buts pour tenter le converti de deux points. Peterson l'a dit clairement après, si c'était pas de ça, on bottait. Donc, le botté final du match aurait été pour un match nul et une prolongation. Et non pour la victoire comme ça a été le cas. T'sais, ça a changé beaucoup cette pénalité-là. Les Chargers, offensivement aussi, qui ont abandonné la course en deuxième demi. Je pense que Austin Eckler a couru comme 4-5 fois en deuxième demi. C'est pas normal, surtout quand tu as une avance comme ça. Donc, c'est ça. Beaucoup de situations aussi, c'est bizarre parce que Brandon Staley a été critiqué souvent dans le passé, peut-être pour son over-agressivité sur des situations de quatrième essai. Mais là, sur les mêmes situations dans ce match-là, 4 et 3, 4 et 2 en zone profonde de l'adversaire, placement, ça n'a pas été avec. On ne sait plus à quoi se fier de la part des Chargers. T'sais, la philosophie varie de match en match. Fait que c'est un peu tout ça, je pense, qui a fait mal.
Réjean nous pose 3 questions. On va y aller rapidement. 3. Ouais, il nous pose la question. Est-ce que si Garoppolo est en santé pour un des prochains matchs, est-ce que il donne le ballon à Garoppolo ou Purdy?
Purdy.
La saga autour de la décision de Lamar Jackson de ne pas jouer alors qu'il était supposément rétabli à 75%. Est-ce que c'est après vous, c'est pour ses négociations en 2023 pour pas aggraver sa blessure?
Ben, tu sais, je posais un peu la question tantôt moi aussi là. Lui, il se dit pas rétabli, il faut le croire sur parole, mais tu sais, dans le contexte, à cause du contexte où il est en négociation de contrat, il a pas d'agent, tu sais, il fait ses affaires par lui-même, c'est permis de se demander est-ce que c'est pas une décision d'affaires qu'il a pris. Sans dire qu'il aurait pu jouer à 100%, c'est pas ça, mais certains corps arrière, je pense, l'auraient fait. Mais dans son cas, écoute, imagine qu'il survient une blessure grave, qui se déchire le ligament croisé antérieur.
Ouais.
Peut-être que ça a pesé dans la balance.
OK. Son autre question. Odell Beckham Jr., là, on en parle depuis 3 mois, puis on ne l'a pas encore vu sur le terrain. Est-ce que sa carrière est finie?
Ben, en tout cas, sa saison, là, il reviendra plus là, cette année. Puis l'incident qu'il y a eu avec l'avion, je sais pas si tu avais vu les images, là, c'était pas chic-chic. Oui. Je pense que s'il revient l'an prochain, ça va y avoir fait perdre des dollars pas mal. Il y a des équipes qui vont dire, écoute, on est bien prêt à essayer, mais il faudra pas que ça coûte cher. Ça, c'est sûr et certain.
Toutes mes condoléances à Jean-Nicolas et Stéphane pour l'élimination de leur équipe. Merci, Simon.
Encore d'autres qui pensent à nous. Le cœur, c'est à main.
De mon côté, mes Giants sont encore en vie, peut-être pour une semaine. Bon, il est pas trop optimiste. Je n'ai jamais été trop convaincu par Daniel Jones, mais avec les performances qu'il a offertes dimanche, on peut quand même espérer. Ma question concernant les Chargers. Selon vous, quelle est la cause de l'effondrement des Chargers cette fin de semaine? On l'a un peu abordé. Mais si vous étiez le directeur général des Chargers, et avec plusieurs décisions douteuses de l'entraîneur-chef durant la saison, est-ce que vous le mettriez à la porte?
Ben moi, ça aurait été oui. Tu sais, j'ai expliqué peut-être des raisons qui ont poussé à le garder. L'appui des joueurs, le côté monétaire, mais pour moi, ça justifie pas. Tu sais, je serais allé dans une autre direction, clairement, surtout quand tu sais que Sean Payton est disponible, qui aurait certainement pas rechigné à l'idée de s'en aller à LA avec Justin Herbert. Mais encore là, on parlait d'argent tantôt. Sean Payton est un coach qui va commander quoi, là?
Non, c'est ça.
15 millions, à 20 millions par année, là? Est-ce que les Chargers seraient prêts à faire un tel engagement financier? Tu sais, c'est la chose que je me demande, là. Mais bon, moi, je l'aurais fait pour répondre à la question.
Mathieu nous pose une question. Salut les gars, c'est Mathieu, l'homme non plus anxieux, mais très radieux de la victoire de ses Cowboys. 30 ans sans gagner à l'étranger, ça a été long. Juste pour vous mettre en contexte, le film Rudy sortait au cinéma.
Oh!
Ouais.
Rudy, revenons au présent. Rudy.
Parmi les vedettes des deux clubs, selon toi, Stéphane, qui ferait la plus grosse différence dans le match? Et penses-tu que Dak peut jouer aussi solidement que lundi dernier? Merci. On se reparle la semaine prochaine. Si les boys gagnent, d'après moi, il nous écrira pas s'ils perdent.
Ah, ils vont nous écrire pareil, je suis convaincu. Mais la plus grosse différence pourrait venir de Nick Bosa. Moi, je m'inquiète du côté de la ligne à l'attaque des Cowboys parce qu'on a vu Jason Peters quitter le match la semaine passée. Là, ça va-tu être lui qui joue pas à 100%? Est-ce qu'on va remettre Smith à sa place? Tu sais, il y a des questions quand même. Puis Nick Bosa, ben, pas le genre de joueur à s'en laisser intimider. Il a été quand même... Il a fait quelques fois la pression là, contre les Seahawks, mais plus discret qu'à son habitude. Je serais pas surpris qu'il rebondisse là, vraiment fort dans ce match-là.
Puis Dak, incroyable, là, son match.
Dak, ça fait du bien, ça arrive au bon moment parce qu'à ses derniers matchs, les interceptions à répétition, tu sais, c'était le corps qui avait été le plus intercepté dans la Ligue depuis la semaine 12. Donc, le fait qu'il ait donné une bonne performance comme ça, c'est sûr que ça peut donner confiance. Là, par contre, tu sais, t'arrives vraiment là, contre une grosse, grosse, grosse défensive.
On va en parler tantôt dans nos prédictions.
C'est ça. Je pense que les Niners sont deuxièmes contre la passe. Là, fait que ça va être une autre paire de manches.
Vous reconnaissez ce thème? C'est le moment de la question du moment Robin, évidemment, parce qu'on n'en a pas eu la semaine passée un moment Robin, et on est tous sortis un peu amers de ça. Hein. Moi, j'étais particulièrement ébranlé. Là. J'ai cru que Robin nous avait oublié ou nous avait flushé, mais non, bonne nouvelle, j'ai des explications. Et Robin qui nous a écrit cette semaine et qui nous disait que sa question était fin prête, mais des bouleversements imprévus ont bousculé son timing et il a manqué l'heure de tomber.
Faut jamais manquer l'heure de tomber. Moi, si je manque mon heure de tomber, là, mes boss seront pas contents.
Mais il nous suggère de faire la zone un peu plus tard, le jeudi ou le vendredi, mais nous, on aime quand même être présent avec vous rapidement dans la semaine pour faire le pont entre ce qui s'est passé et ce qui se passera. Mais on prend ta suggestion, Robin, puisque tu es un auditeur pas comme les autres. On va y aller avec ta question, mon cher. On a peu parlé, mais que pensez-vous du coach Ron Rivera? Qui, en plus de sa mauvaise décision très contestée et contestable de ressusciter Wentz pour le match le plus important de l'année, avouait à la presse qu'il ne savait même pas qu'une défaite causerait l'élimination de son club. Pensez-vous qu'il est fini comme coach? J'ai pas vu, j'ai manqué ça, moi, Ron Rivera.
Ouais, c'est ça. C'est qu'à son dernier point de presse, il a mentionné, il y a un journaliste qui a posé la question, est-ce que tu sais que, si, parce que le match était à 13h ou à 16h, je me souviens plus, puis les Packers jouaient en soirée, ouais, c'est ça. Il dit, est-ce que tu es conscient que si les Packers gagnent tantôt, vous êtes éliminé? Puis il dit, ah non, je savais pas. Fait que ça a fait réagir bien des gens parce que c'est comme, ah, le coach normalement devrait connaître tous les scénarios impliquant son équipe.
Oui.
Ça m'a pas tant choqué parce qu'il était tellement dans son match présent que je peux comprendre que ce détail-là, bon. Puis qu'est-ce que ça a amené de plus, je sais pas. Mais ce qui m'a choqué dans son cas, moi, c'est Wentz, effectivement. Ça, là... Tu peux pas jouer de même avec tes corps arrière parce que là, bon, Taylor Heinicke, ça a été plus dur dernièrement. On va ramener Wentz, mais Wentz, on savait très bien que l'an passé, dans la même situation avec les Colts,
eh oui, il s'est effondré.
Il s'était planté royalement, ça avait été pathétique. C'est lui qui avait coulé les espoirs de série des Colts l'an passé. Donc, de dire cette année, je vais me fier sur lui pour nous sauver puis nous amener en série, très, très, très discutable. Par contre, là où je vais donner du crédit à Rivera, c'est une organisation de broche à foin, là, Washington, depuis plusieurs années. Un propriétaire tout croche, intempestif, qui intervient dans bien trop de décisions, dans bien trop de départements. Ça s'en va un peu n'importe comment. Puis je trouve que c'est un des rares qui a su ramener un peu d'ordre dans la cabane, Rivera. Là, ça, j'y donne. J'aime pas du tout la décision de concernant Wentz. Pour ce qui est du call des playoffs, ben c'est pas, ça paraît pas très intelligent, c'est sûr, mais je pense pas que ça a coulé l'équipe nécessairement. Là. Mais pour ce qui est d'avoir maintenu cette équipe-là à flot malgré les controverses et controverses
ah,
et controverses.
Fini 500, hein? Ils ont fini à 500, c'est quand même bon.
Il y a quand même un certain mérite là. Puis les joueurs, tu sais, j'en ai entendu plusieurs au fil des années qui le respectent beaucoup. Écoute, c'est comme on parlait pour Staley tantôt. C'est pas un gage de respect que parce que tes joueurs te respectent. C'est pas un gage de succès, c'est-à-dire tes joueurs te respectent, donc tu dois rester, là, c'est pas ça. Mais quand même, je pense que Ron Rivera mérite une autre saison où tout va se décider là, pour la suite des choses parce qu'il a su maintenir le navire à flot dans un contexte vraiment pas comme d'autres organisations.
Si vous voulez nous joindre pour des questions, n'hésitez pas à nous interpeller sur les réseaux sociaux, sur Twitter, entre autres. Vous pouvez aussi participer sur notre page « Nos précieux conseils de fantasy football ». Chaque semaine, Stéphane ou moi, on vous demande, on vous pose la question si vous avez quelque chose à signaler pour notre émission du mercredi ou des fois du jeudi. Sinon, vous pouvez aussi nous écrire par adresse courriel à l'adresse suivante.
La zone payante, acommercialquebecormedia.com.
Restez là, après la pause, c'est le moment de nos prédictions pour la première semaine de l'entrée en jeu des favoris, les Eagles et les Chiefs. Bougez pas!
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, Nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
I got news for you, buddy. We're going to win the game, I guarantee you.
Oh, c'est le moment où chaque déclaration du genre, là, faut être prudent. Mais,
ouais, ça peut être ramené contre nous. Là. Joe Namath, ouais. Il a eu du succès avec ça, ça a fait sa renommée. Mais des fois, nous autres, on peut garantir des affaires qui arriveront pas. Là.
Ouais, moi, je suis 5-6 la semaine passée.
Pas tout ben, si tu prends ta revanche, Jean-Nic, après une saison plus difficile, t'as eu le meilleur sur moi. Là. La semaine passée, j'ai un maigre 3-6.
Oui, mais là, il y a encore du football à jouer. Là, cette semaine, je sais pas si tu vas oser prendre des risques, là, mais je trouve que les cotes sont assez claires là, pour la plupart. Il y a un match, là, on va le garder pour la fin, qui risque d'être un petit peu plus complexe. Commençons avec les Chiefs et les Jaguars. Les Jaguars qui ont leur billet pour être l'équipe Cendrillon s'ils continuent leur parcours, mais disons qu'ils affrontent tout un troc en premier.
Ouais, j'aime l'expression tout un troc. Ça a été beau là les Jaguars honnêtement, je sais pas, j'ai de la misère à croire qu'ils peuvent refaire le même coup. Il y a une chose qui est pire que Patrick Mahomes, c'est Patrick Mahomes qui sort d'un bail. S'affiche après un bail avec les Chiefs, là, c'est 9 victoires, une défaite, une moyenne de 30,1 points par match dans ces 10 matchs-là.
Ça, c'est incluant la saison régulière.
Ouais, c'est ça. Puis, écoute, Mahomes, là, en série, c'est un monstre. C'est un monstre. Là. 8 victoires, 3 défaites, 28 touchés. 28 touchés en 11 matchs de série.
Ouais.
C'est ridicule. Je vois pas comment la défense des Jaguars
va résister. C'est des genres de stats s'il passait son temps à jouer contre les Texans. Là.
Ouais, ben le problème
alors
c'est qu'en série,
des équipes
c'est
de
ça.
Série, c'est ça.
C'est complètement fou. Puis un point qui m'inquiète aussi du côté des Jaguars, ça a été une équipe qui a été très faible contre les Titans. J'ai vu une stat qui m'a épaté. Ils ont donné 1087 verges aux Titans, 13,1 verges par réception cette année aux Titans. C'est très, très, très mauvais.
Ben non, mais y en a-t-il un bon à Kansas City? Je suis pas sûr.
Ouais, il y a Travis Kelce, là, qui se débrouille. Ouais. Il fait sa petite affaire, son petit bonhomme de chemin depuis 10 ans dans la ligue. Là, fait que, ouais, ça pourrait être un point qui joue en faveur des Chiefs, disons-le comme ça. Ce qui peut-être, écoute, est-ce que ça peut jouer en faveur des Jaguars? Il n'y a pas un coach qui connaît plus Andy Reid, je pense, que Doug Peterson. Écoute, il l'a côtoyé comme joueur quand il était à Green Bay, puis qu'Andy Reid était le coach des corps arrière. Il y a passé 4 ans aussi comme assistant avec lui à Philadelphie. Donc, tu sais, il connaît les tendances d'Andy Reid, il connaît un petit peu son sac à secrets. Mais le sac à secret d'Andy Reid regorge tellement de solutions que je pense que ce sera pas un problème au final. Victoire des Chiefs, je vais y aller quand même là, avec un bon écart, un 10-12 points.
La cote est 8,5, donc les Chiefs sont favoris par plus qu'un touché. On dirait que Trevor Lawrence m'a pas plus convaincu la fin de semaine passée. Il m'a convaincu pendant la saison qu'il était capable d'être régulier. Là. T'sais, autant pendant un match qu'autant que sur une séquence de match. Trevor Lawrence, il a quand même lancé 4 interceptions là, en début. 3 ou 4 interceptions en la première demi.
4.
Au moins 4 revirements. Là.
Ouais.
J'espère qu'on va avoir un match, en fait. Là. C'est ça mon point. Là. T'sais, là, j'espère qu'on va avoir un match. J'espère que les Jaguars vont avoir un meilleur début de match. S'il peut avoir quelques jeux sur les unités spéciales, peut-être que les Jaguars vont commencer la deuxième demi avec une possibilité de remporter un match contre toute attente. Mais à mon avis, il y a pas photo. La cote est bonne, 8,5. Les Chiefs, avec un Patrick Mahomes inspiré qui va continuer dans la lignée de ses statistiques en série. Victoire des Chiefs.
Une seule garantie dans ce match-là, Jean-Nic. Là. S'ils prennent une avance de 27-0, les Chiefs, là, ils ne feront pas remonter eux autres.
J'enregistre ce moment de Stéphane, une prédiction qui tu oses te mouiller sur quelque chose de très...
Ben écoute, là, tu sais, il y a juste les Chargers. Il y a les Chargers et les Falcons se chargeriser ou se falconiser.
Il y a les Chargers et Matt Ryan. OK. Ouais. Les Eagles, eux, aussi font leur entrée. Ils s'affrontent les Giants qui... je sais pas comment dire ça. Ils ont comme... Je sais pas s'ils ont surpris le monde en battant les Vikings. Mais en tout cas, ils sont toujours underdog. Là. Puis là, ils sont encore par 7 points. Là. C'est quand même un gros écart.
Ouais. Écoute, c'est parce que c'était très convaincant ce qu'ils ont fait, les Giants, d'un côté, mais de l'autre, moi, je vais te ramener à la défense des Vikings, qui était 31e contre la passe, qui donnait 267 verges par match. C'est énorme, en moyenne. Là, ils se retrouvent contre les Eagles, qui sont premiers contre la passe, qui donnent 180 verges par match.
Sont premiers contre la passe?
Ouais, c'est une énorme différence quand même. Donc, je pense qu'on va revoir un Daniel Jones qui, sans être mauvais, va être quand même plus contenu que la semaine passée, où il s'amusait comme un petit fou, il faisait ce qu'il voulait. Des courses à profusion, je pense qu'il a couru 17 fois Daniel Jones contre les Vikings. Écoute, si les Giants ont une chance, c'est peut-être de refaire ça, justement, là, des jeux d'options où Daniel Jones garde le ballon, mais la défense des Eagles, c'est diablement plus sérieux que celle des Vikings. Il y a une tendance aussi, là, de cette rivalité-là est à sens unique depuis des années. 15 des derniers 18 matchs ont été remportés par les Eagles. Il y a un élément que j'aime aussi du côté des Eagles. Tu sais, des fois, on se dit, ah, le bail, c'est-tu nécessairement un avantage? Tu sais, t'es rouillé un peu, t'es off, t'as pas joué. Dans le cas des Eagles, il y avait deux gars extrêmement importants qui devaient guérir. Jalen Hurts, évidemment, le corps arrière. Mais le bloqueur à droite, Lane Johnson aussi. Ça, ça fait une énorme différence. Il devrait être en mesure de revenir au jeu. J'ai l'impression que ça va faire la différence dans ce match-là, ces deux gars-là en santé. J'irai pas avec l'écart. Tu mentionnais quoi, 7 ou 7.5?
Ouais, 7 points.
Je vais y aller avec une victoire des Eagles, mais plus serrée là, par un 4 points. Les Giants vont être coriaces.
Est-ce que Jalen Hurts va être capable de courir?
Ben, écoute, je vois pas pourquoi il serait pas capable.
Parce que, tu sais, on dirait que plus la saison avance, plus il ménageait, là.
Ouais, mais c'est sûr, là, il était blessé, puis...
Ben, c'est ça, là. Moi, je sais pas. On dirait que j'ai... Ma seule interrogation, c'est la mobilité de Jalen Hurts dans ce match-là, là.
Mm-hmm.
S'il est forcé d'être dans la pochette, si les Giants jouent une défense pas trop agressive, mais en même temps qu'il, tu sais, à 4, là, tu sais, qu'ils mettent la pression à 4, on dirait que, tu sais, moi aussi, là, je trouve que le spread est gros, là. Puis j'ai l'impression qu'il va y avoir un peu de rouille. Je m'attends pas à un départ canon des Eagles. On pourrait entrer en deuxième demi puis avoir encore des questions sur l'issue du match.
Mm-hmm.
Puis qu'il n'y ait pas beaucoup de points de compté.
Pas mal d'accord avec ça.
Je vais y aller avec les Eagles, mais...
C'est ça que je me demandais, est-ce qu'il y allait avec la surprise
ou
pas, là?
Non, j'irai pas avec la surprise.
Je vois le même genre de match que toi, pas mal.
J'irai pas avec la surprise, mais c'est vraiment parce que le spread est élevé, puis les Giants sont une jeune, tu sais, une équipe qui était pas en série depuis plusieurs années, puis ils sont déjà contents de leur saison, les Giants, là. Alors que les Eagles ont des plus grands objectifs. Je vais y aller avec les Eagles, mais je suis quand même shaky sur celle-là. La prochaine, par exemple, là, on commence à parler des matchs qui sont un petit peu plus... on va avoir peut-être des chicanes. Peut-être pas celle-là, parce que les Bills, ils ont rien démontré contre les Dolphins. Ils reçoivent les Bengals à domicile. Est-ce qu'ils ont appris du match des Dolphins ou c'est la vraie nature de Bernadette de ce qu'on a vu contre les Dolphins?
Un, je pense qu'ils ont appris. Puis deux, moi, ça me fait rire parce que le narratif en rentrant dans ce match-là, c'est « Ah, les Bills ont mal paru contre les Dolphins. » Toi, trouves-tu que les Bengals ont bien paru contre les Ravens?
Les Ravens, là, je m'excuse, mais c'est une très bonne équipe.
Oui.
Très bien coachée.
Mais il y avait quand même un corps arrière très ordinaire. Il n'y avait pas de receveur de passe. Il y avait des éléments manquants dans cette équipe-là aussi. Je suis d'accord avec toi. C'est une bonne équipe, une grosse défense, bien coachée.
C'est ça, là.
Mais il n'aurait jamais dû être autant dans ce match-là.
Je compare pas les deux matchs parce que les Ravens, dans ma tête, là, ils étaient capables de battre les Bengals. Les Dolphins n'étaient pas capables de battre les Bills, tu sais. J'ai l'impression que les Bengals, ils ont géré le match. Ils ont eu peur de se faire out-coacher. C'est pas arrivé. Ils ont quand même très bien joué, les Ravens. Je comprends que les Bengals ont convaincu personne, mais jamais autant que les Bills, tu sais.
Non, c'était pas aussi pire. Mais ce que je trouve, c'est qu'on n'en parle pas assez. C'est comme si eux autres, ils ont gagné, puis that's it. C'était pas très convaincant. Il reste qu'on est à un très mauvais jeu près de Tyler Huntley à la porte des buts, que ce match-là soit très différent.
Évidemment. Son fumble puis son retour, c'est ce qui a été la différence.
Ben, ça a été tout un swing dans le match. Là. On s'entend qu'au niveau du pointage, ça change totalement la donne. Mon seul point, c'est que ces deux clubs-là m'ont pas convaincu. Les Bills, encore moins. Mais Cincinnati, je suis loin d'être sorti de là avec une impression que c'était un club archi-dominant puis qui allait brûler les Bills demain matin. Donc, il y a du travail à faire des deux côtés. Je pense que les deux clubs vont avoir appris de ça puis vont sortir leur meilleur match. J'ai comme vraiment le feeling que ça va être le match de la fin de semaine, celui-là. Tu sais, c'est deux équipes qui se classent dans le top 8 pour les points marqués, pour les verges par match, pour les verges par la passe. Ça va être explosif, c'est sûr et certain. Là où il y a un élément d'inquiétude, c'est la ligne à l'attaque des Bengals. Là, il y avait déjà deux partants qui étaient pas là. Kappa, je pense pas qu'il va être en mesure de jouer, mais on le sait pas au moment où on se parle, le garde. Puis là, il y a Jonah Williams, le bloqueur à gauche, qui est l'élément probablement le plus stable de cette ligne à l'attaque-là, qui s'est blessé là, la semaine passée au genou. Sa présence est très incertaine. Écoute, je comprends que les Bills ont pu vendre Miller puis que ça a changé vraiment là, leur dynamique en termes de pression sur le corps arrière, mais t'as quand même des joueurs qui sont capables d'appliquer la pression du côté de Buffalo. Devant une ligne éclopée comme ça, moi je pense que là, il peut y avoir une différence qui peut être observée. Là où il faut que les Bills s'améliorent clairement, c'est ils sont nonchalants avec le ballon, particulièrement Josh Allen. Les Bills qui ont commis au moins 3 revirements dans chacun de leurs 3 derniers matchs, tu sais, c'est vraiment pas du football propre, c'est négligent. Au contraire, Cincinnati a un ratio de revirements de plus 7 dans ses 9 derniers matchs. Fait que tu sais, il y a une équipe qui joue avec nonchalance, l'autre non. En finale, j'ai l'impression que c'est l'attaque des Bills qui va faire la différence, tu sais, Diggs, Gabe Davis, Dawson Knox, qu'on oublie souvent, il a un touché dans ses 5 derniers matchs. Beaucoup d'armes du côté de Buffalo. Je vais y aller avec une victoire par un placement, puis ça va être des points là, dans la trentaine de chaque côté.
Moi, j'ai l'impression que Joe Burrow, il en a vu d'autres, là, ce qui a trait à une ligne à l'attaque éclopée. Là.
Oui.
C'est pas vrai. Ça qui le fait peur. Je pense que tous ces receveurs de passe sont en forme. Puis honnêtement, la tertiaire des Bills, là, ils ont quand même donné 31 points au troisième quart arrière des Dolphins. Là. Puis avec Jaden Waddle qui a échappé 3 ballons sur 4.
Je veux juste discuter là-dessus. Là. Premièrement, ils ont donné 24 parce que il y a un touché défensif là-dedans. Raison. Deuxièmement, regarde les drives des Dolphins. C'était des revirements des Bills profondément dans leur zone souvent. Ça donnait des drives de 18 verges, puis des drives de 8 verges, puis des drives de 38 verges.
Mais ils ont donné des verges quand même. Ils ont donné des grosses drives. Je dis pas qu'ils méritent pas d'être dans la NFL.
J'ai juste trouvé que la défense des Bills a été placée dans une situation insoutenable tout le long de ce match-là. Ça devenait difficile à un moment donné de donner aucun point. C'est juste ça mon point. Ils ont pas joué un match élite, mais ils étaient placés dans une position où, franchement, là, à un moment donné, il faut que ça casse.
T'as raison. Mais il reste que les Jets avaient donné 3 placements. Là, puis il y avait aussi des revirements la semaine d'avant.
Ouais.
À un quart arrière qui a joué encore moins bien que la semaine d'avant. Là, à part d'accord. Peut-être une drive. Fait que ouais. Les Bills, là, j'ai l'impression qu'ils ont perdu leur momentum. Ils sont pas sur une pente montante. Ils affrontent une équipe là qui est stable, qui m'ont démontré contre les Ravens qu'il y avait de la maturité dans le coaching staff. J'ai pas l'impression que Joe Burrow va avoir de la difficulté à trouver ses receveurs. Moi, je vois une victoire des Bengals en fin de semaine Je pense que les Bills, ils vont avoir des questions à se poser sur la façon dont ils ont géré la fin de l'année. Et ils vont devoir se trouver une stabilité au jeu au sol parce que encore là, ils vont mettre le ballon dans les mains de Josh Allen en disant « lance 50 fois, puis au pire, cours ». Mais il commence à être fatigué, Josh Allen. Je pense pas qu'il va réussir à gagner en fin de semaine à lui tout seul contre une équipe bien équilibrée contre les Bengals. Victoire des Bengals, mon
cher. T'amènes des très bons points, Jean-Nic, honnêtement. Puis, tu sais, moi, peut-être que je m'accroche sur le fait qu'au début de la saison, j'ai dit Super Bowl Bills, puis que là, bon, j'ai de la misère à les larguer au moment où, c'est le crunch, là. Mais c'est un match, tu sais, qui peut vraiment, c'est celui-là, moi, qui me fait hésiter le plus, là, tu sais, parce que...
Moi, je pense que t'as une bonne prédiction parce qu'ils sont à domicile, là, tu sais. Si on s'entend que si c'était à Cincinnati, les deux, on serait vraiment assez clair que le match va finir dans les mains des Bengals. En tout cas, dans mon cas, ça serait plus clair, là.
C'est sûr que c'est un élément. Regarde, les Bills ont été 8-1 à la maison là, cette saison. On peut pas dire que ça fait pas une différence. C'est un des stades où c'est le plus difficile de jouer, clairement.
Mais les deux à la température. Moi, j'ai pas l'impression que les Bengals vont souffrir de jouer à l'étranger, bien que...
Parce que c'est une équipe qui est construite pour jouer dans ces conditions-là. Là. C'est pas comme si... Mettons, c'est pas un club de la Floride.
Hey! Je savais que t'allais dire ça. Tout ça pour me faire de la peine. Une chance que les auditeurs sont là pour me soutenir émotivement parce que je peux pas compter sur toi.
C'est de bonne guerre.
On va passer au prochain match. Monsieur, mon équipe joue dans un stade intérieur.
Très bien envoyé.
Les 49ers reçoivent les Cowboys. Là, les Cowboys qui sont vraiment là. J'espère qu'ils vont descendre de leur nuage rapidement là, après leur victoire en fin de semaine parce qu'ils ont raison de célébrer, mais ils ont pas mal de travail qui les attend cette semaine. Les 49ers qui n'auront pas de changement, là, et pas de blessés, sont chanceux. Là, franchement, là, ils ont une belle équipe en santé. Qu'est-ce que tu vois dans un match où les preneurs au livre donnent les 49ers favoris par 3,5 points?
Ouais, ben on voit que les Cowboys ont gagné beaucoup de respect avec leur performance parce que c'était une fin de saison un petit peu douteuse. Là, il y avait eu quoi, 2 victoires à leurs 4 ou 5 derniers matchs. Tu sais, il y avait des défaites très bizarres là-dedans. Mais là, ils se sont vraiment remis d'aplomb. Est-ce que ça peut durer? Je le sais pas. Ces deux équipes aussi qui défensivement sont dans le top 5 au niveau des points accordés. Là, donc ça, est-ce que ça peut être un match beaucoup plus défensif qu'on pense? Probablement. Y a un côté, dans le fond, là, qui m'inquiète du côté des Niners. Ils paraissent très, très bien en ce moment, c'est sûr. C'est probablement en ce moment l'équipe qui paraît le mieux dans la NFL. Brock Purdy, on dit un paquet de belles choses de lui, mais tu sais les équipes qu'il a affrontées jusqu'à maintenant, tu sais dans saison régulière, pas beaucoup de pass rush, puis dans saison régulière les équipes qu'il a battues, fiche cumulative de 35-49-1. Fait que tu sais, j'ai hâte de le voir contre les Cowboys. Ça va être vraiment différent de ce qu'on a vu. J'ai hâte de le voir comment il va fuir la pression. Micah Parsons. C'est une bonne ligne à l'attaque là, devant lui, celle des Niners. Mais il y a une couple de fois qui va se faufiler. Seigneur.
Ah oui?
Il y a une couple de fois qui va se faufiler, c'est sûr, parce que c'est un très, très grand joueur de football. Mais au final, je pense que cette ligne à l'attaque-là va faire la différence. Les Niners vont être capables d'établir le jeu au sol. Ils vont être capables de protéger Brock Purdy quand ça va compter le plus. J'ai l'impression là, que, t'sais, que ça va être beaucoup plus... T'sais, on va se battre pour chaque pouce de terrain. Ce sera pas là, l'explosion peut-être que certains attendent. Je vais y aller avec une victoire des Niners. Je sais, là, vous allez dire, t'es pas très original, t'as pris les 4 favoris, mais c'est vraiment comme ça que je vois cette ronde-là cette semaine. Tant mieux si on a des surprises. C'est toujours agréable d'avoir des surprises, mais j'ai les Niners de mon côté par moins d'un touché.
Moi, j'ai les Niners aussi. L'élément, franchement, là, qu'on parle pas assez, ben, on en parle, mais c'est comme si on s'y attendait peut-être, ou on oubliait à quel point il était dominant quand il jouait en Caroline. Mais c'est incroyable, là. McCaffrey, là, il fait le match à lui tout seul, tu sais. Brock Purdy, on y dit, garde, sors du temps, on a une bonne ligne, fais pas de niaiserie. Si t'as à te déplacer, regarde loin, puis si ça marche, tant mieux. Sinon, envoie ça dans la foule. Mais le reste du temps, je cherche McCaffrey. Mm. Puis à chaque fois, il est pas déçu. C'est incroyable comment que ce gars-là en santé, c'est le MVP. Je sais que les Panthers ont abandonné la saison à un moment donné. Il aurait peut-être pas dû remarquer là, mais ils ont abandonné la saison, puis ils ont abandonné sur un joueur aussi qui est souvent blessé, sur lequel ils peuvent pas se fier. Mais là, tu vois-tu son utilité, là? C'est incroyable.
Ça a été un échange fantastique. Puis moi, ce que j'admire du côté des Niners, ils ont fait cet échange-là au moment où il était 3 victoires, 4 défaites. Hey, tu sais, combien de clubs auraient dit « Ouais, c'était peut-être pas notre année, finalement. » Non, ils ont montré à leurs joueurs qui croyaient en ce vestiaire-là, qui croyaient en leur chance d'aller loin, toute une acquisition.
Incroyable. Là. Ils transforment des jeux qui pourraient être des pertes en premier essai. Il s'en va chercher la zone début. Il est toujours libre. Il cherche les interzones. Franchement, là, je suis impressionné par son jeu. Puis, tant qu'il va être en santé, là, je vois pas comment que les 49ers pourront pas être très dangereux à l'attaque. Je pense qu'ils vont être plus dangereux que les Cowboys. Tu sais, même avec ce qu'on a vu en fin de semaine, les 49ers, ils vont répondre point pour point aux Cowboys. Puis à la fin, ils vont gagner le match. Donc, victoire des 49ers. Grâce au jeu au sol puis aux courtes passes que Brock Purdy va utiliser en utilisant son running back étoile. Si tout le monde reste en santé, bien sûr, pendant le match.
Fait qu'on a juste une chicane, Jean-Nic.
On a juste une chicane, c'est les Bengals. Sinon, tous les autres matchs où l'équipe est à domicile, les favorites remporteront les matchs. On va voir ce que ça donne. Après la fin de semaine, samedi, donc 2 matchs samedi, 1 à 4 heures, un autre à 8 heures, je me trompe pas?
Ouais, 4h30, 8h15. Puis dimanche, c'est là qu'il y a un changement. Là. C'est pas 1 heure comme d'habitude. On est à 3h et à 6h30.
On s'en reparle la semaine prochaine. Merci Stéphane pour les prédictions. On va espérer que tu rattrapes ton retard face à moi, qui est pas l'expert pourtant. Là, c'était gênant. Là. Je sais que ça t'affecte beaucoup là, dans ton orgueil. Là.
Ça me met de la pression, ça me force à prendre les favoris.
Exact. Pas quoi, là. Après la pause, mon cher, c'est le bar. On va aller punir certaines personnes qui n'auront pas passé une aussi belle semaine que moi. Bougez pas. I got a hangover. Too much for sure. I got a hangover. Whoa. Vous êtes sur la chronique au bar. Et cette semaine, on va envoyer quelqu'un au bar. Voici qui en envoie au bar.
Likely on Kansas City. Here we go for the win. Got it, but there's a flag down. There's a flag down as everybody's running out onto the field, but there's a penalty marker. And they call it on the defense.
Qu'est-ce qu'on vient d'entendre là, Steph?
Ah, ben c'est mes invités, pourtant que j'aime beaucoup. Al Michaels, Tony Dungy, Al Michaels, j'ai tellement de respect pour lui, une carrière vraiment exceptionnelle. Il nous a fait vivre tellement de beaux moments télévisuels. Mais cette semaine, il s'est endormi. Il a fait un petit roupillon, Al Michaels. C'était pénible de les entendre les deux à description. Premièrement, aucune chimie là, entre Michaels et Dungy. Deuxièmement, le ton monocorde.
C'était terrible, Tony Dungy.
Ça a été... Tu sais, Dungy aide pas, là, ça c'est sûr. Mais Michaels, c'est endormi. Là. Puis on vient d'entendre, en fait, le call du dernier botté de placement qui couronne la 3e plus grosse remontée de l'histoire des séries par les Jaguars.
C'était pas genre le botté d'un match pré-saison entre les Jaguars et les Titans. Là.
Non, c'est ça. Puis c'est pas un botté au premier quart non plus qui porte la marque à 6-3 puis que bof, on s'en fout un peu. C'est la 3e plus grosse remontée de l'histoire des séries. Puis c'est comme ça qu'Al Michaels et Tony Dungy ont décidé de nous faire vivre le moment. Honnêtement, là, c'est un petit peu honteux. C'est comme s'il aurait préféré être ailleurs, comme s'il était pas là. Michaels, peut-être qu'il a été trop habitué à couvrir des matchs ennuyeux du jeudi soir cette année là, sur Amazon. C'est sûr que ça n'a pas été la cédule la plus enivrante de sa carrière, mais là, c'était un match de série. Il se passait quelque chose de gros. J'ai trouvé que c'était bien, bien, bien plate. Ça m'empêche pas de le respecter au plus haut point, mais le bar est là pour le punir. Et
qu'est-ce qu'il va boire?
Un drink approprié que je trouve qui a l'air franchement dégueulasse. Un wake-up call. Un wake-up call, c'est avec du rhum. Jusqu'ici, tout va bien, on est d'accord.
Oui.
Mais la suite, de la poudre de café instantané, du Nutella.
Du Folgers.
Tu prendras le café que tu veux, mon cher.
Nabob.
Et du beurre de peanut. Tout ça mélangé ensemble. Il y a du café là-dedans, du sucre en masse. J'imagine que ça réveille. J'imagine que la première gorgée, tu dois faire tout un saut. C'est ça. Al Michaels et Tony Dungy. Wake up call, messieurs.
Mais de mon côté, moi, je vais envoyer le gageur inconnu au bar, mon cher.
Le gageur inconnu.
Ouais, mais là, je pense que le match des Chargers...
Je connaissais le soldat inconnu, mais pas le gageur inconnu.
Exact. Non, mais là, je pense que le match des Jaguars contre les Chargers auront laissé beaucoup de victimes, pour reprendre ton image du soldat. Là. Et il va avoir, entre autres, laissé le gageur inconnu sur le au combat. Là. Il va l'avoir laissé mort au combat. Savais-tu que... Tu sais, là, maintenant, c'est public, là, les gens qui font des gageures pendant les matchs, et sans révéler le nom de la personne. Mais il y a un gageux qui a été placé à la mi-temps. En fait, juste avant la mi-temps, quand les Chargers menaient 27-0 pour les Jaguars, contre les Jaguars, le gars a gagé 1,4 million.
Ouf, ça va mal finir, ça.
Dans l'espoir de gagner 411 000. Autrement dit, il gagnait 11 000 piastres.
Oh! 11 000 piastres? Quand tu gages 1,4 million, tu dois pas
la
être à 11 000 piastres près.
Était à moins 12 500.
OK.
Donc, il a gagé 1,4 million sur la game alors que les Chargers menaient 27-0 pour gagner 11 200 piastres. Et je te le donne en 1000. Il a perdu son 1,4 million.
Hey boy, le seul élément positif là-dedans, c'est qu'il est inconnu.
Oui, oui, mais écoute, là, je sais pas dans quel état je serais, moi, avoir été la personne qui... J'espère qu'il n'y avait pas comme 1,5 million, mettons, dans son compte de banque, puis qu'il a dit, je vais faire la chose la plus safe de ma vie, gagner 11 000, puis je vais partir en voyage aux Bermudes avec mon 11 000 piastres, puis... Mais... Perdre 1,4 million, là, premièrement, si c'est un partisan des Chargers, j'espère qu'il l'est plus. Deuxièmement, si il croyait en Justin Herbert puis qu'il avait son chandail, ben il reste que Justin Herbert a quand même pas connu une très bonne deuxième demi, peut-être qu'il pourrait brûler son chandail.
Non, il peut pas le brûler, il faut qu'il le vende, il n'y a plus d'argent.
C'est sûr, mais c'est pas le meilleur moment pour le vendre non plus, remarque, là, mais bon.
Non, la valeur marchande, non.
Alors, je vais lui faire, je vais lui faire prendre un drink approprié là, pour oublier. Je sais pas qui il est. Peut-être qu'il nous écoute. Là. Peut-être que c'est un gars de Rawdon ou de Pointe-à-Pitre. Non, Pointe-à-Pitre, c'est pas au Québec, mais peut-être qu'il nous écoute.
C'était mêlé avec Pointe-au-Pic.
Pointe-au-Pic, exact. Je vais lui faire boire un Gamble.
Oh!
Un cocktail qui s'appelle le Gamble. Puis c'est 30 millilitres de gin. 30 millilitres de slow gin. Ça, j'avoue que je ne sais pas ce que c'est. Non, je ne sais pas. Et du pamplemousse. 30 millilitres de pamplemousse. Hey, je peux te faire une parenthèse? T'sais, moi, j'ai mangé comme un défoncé pendant le temps des fêtes. Puis depuis le retour au travail, je déjeune au pamplemousse, puis j'haïs pas ça.
Okay. Donc,
peut-être que je vais m'en faire un petit drink Gamble avec... du gin et du pamplemousse.
En regardant les matchs samedi.
Et ça finit avec du sirop d'érable. Un petit peu moins santé pour ceux et celles qui sont comme moi à la diète d'après temps des fêtes. Mais quand même, alors un petit drink approprié pour notre gageur inconnu. Il aura mis 1,4 million sur le match alors que les Chargers menaient 27-0 pour gagner 11 000 piastres et qui finalement perd 1,4 million. Merci aux Chargers.
J'étais pas au courant de l'histoire. Merci du partage. C'est enrichissant, des histoires comme ça.
C'est tout pour nous cette semaine, mon cher. Bonne semaine à toi. Bonne semaine à nos auditeurs. Bon match en fin de semaine. Et on espère vous retrouver tous et toutes, même heure, même poste, la semaine prochaine pour une autre édition de La Zone Payante. Merci et à la semaine prochaine.